Géopolitique, Marie-France Chatin.
Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur les défis de l'action humanitaire à l'occasion de la tenue à Paris dans quelques jours de la conférence nationale humanitaire. Nos invités par téléphone, Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Alain Boinet, fondateur de l'association humanitaire Solidarité Internationale et directeur du site www.défishumanitaires.com. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Et en studio, Pierre Brunet, vice-président de Solidarité Internationale et écrivain, co-auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'Aider plus loin, 40 ans de crise, 40 ans d'action, qui retrace les 4 décennies d'action humanitaire de Solidarité Internationale, sorti récemment aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Alain Boinet, dans quelques jours se tient donc à Paris la 5e édition de la Conférence nationale de l'humanitaire, une sorte de grand-messe dont l'objet est de faire le point sur l'action humanitaire aujourd'hui, les défis de l'action humanitaire. De quoi va-t-il être question et qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle conférence?
Alors, d'abord un mot peut-être sur la conférence elle-même. En fait, c'est le résultat d'un rapport que le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, Bernard Kouchner, m'avait demandé, et j'ai réalisé avec Benoît Méribel. Et nous avions proposé notamment 3 choses: la mise en place d'un groupe de concertation humanitaire État-ONG, la mise en place d'une conférence nationale humanitaire et la mise en place d'une stratégie humanitaire de la République française. Ce rapport, on l'a remis en 2009, et depuis 10 ans, on a travaillé sur ce projet qui s'est concrétisé avec les pouvoirs publics. Donc cette CNH, c'est la 5e. Je voudrais aussi souligner le fait que c'est le résultat d'une concertation entre le ministère des Affaires étrangères à travers le centre de crise et de soutien et les ONG qui sont regroupées donc dans ce groupe de concertation humanitaire qui se réunit tous les trimestres au Quai d'Orsay. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que depuis 10 ans, on travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on construit. Et que progresser, ça demande du temps et ça demande tout simplement de la construction. Donc en fait, cette conférence nationale humanitaire, elle se déroulera pour la première fois et malheureusement à distance du fait de la pandémie. Et en fait, il y a à la fois 4 tables rondes, un point sur la stratégie humanitaire, mais aussi sur les financements. Il sera fait en introduction par le directeur du centre de crise et de soutien, Éric Chevalier. Mais il y aura aussi une séance d'ouverture, présidée par le ministre des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, et une séance conclusive, présidée par le président de la République. Donc c'est la première fois que qu'un président de la République assiste à cette conférence qui lui donne une importance particulière, et nous attendons beaucoup de la déclaration qu'il fera. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite à l'assassinat des humanitaires d'ACTED au Niger, le 9 août, donc des 7 humanitaires plus de cet autre Nigérien qui ont été assassinés par Daesh, nous avons eu une réunion à l'Élysée et le président s'est engagé à prendre une initiative avec d'autres États partenaires pour la protection des humanitaires, la lutte contre l'impunité de ceux qui commettent ces crimes, mais aussi de la protection de l'accès et donc du droit international humanitaire et donc la limitation des lois antiterroristes et des régimes d'exemption qui nous posent un énorme problème. Donc les 4 tables rondes sont la première justement sur le régime des sanctions et les mesures antiterroristes, la seconde elle porte sur ce qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire la coordination entre l'aide humanitaire, le développement et la paix. La suivante porte sur le respect du droit international humanitaire et l'accès humanitaire. Et la 4e, donc, sur la question du climat, du dérèglement climatique et de l'humanitaire. Ce que je voudrais dire, c'est que nous attendons, les ONG, nous attendons beaucoup que nous sommes dans 2020, le président de la République s'est engagé, suite à une réunion du CICID et le comité interministériel de la coopération internationale du développement le 8 février 2018, s'est engagé à porter l'aide publique au développement à 0,55% du revenu national brut. On était à moins de 0,46, ce qui devrait au final, en 2022, faire une augmentation de 6 milliards d'euros par an pour l'aide publique au développement. Ça, nous y sommes évidemment très attachés. C'est un engagement qui a été pris. C'est un engagement que le président de la République a pris d'ailleurs devant les Nations Unies. Nous espérons et nous souhaitons bien sûr qu'il soit tenu malgré le contexte de la pandémie et des conséquences économiques et sociales. Et puis, plus spécifiquement, il y a eu un engagement du président de la République sur le fait que l'aide humanitaire soit dotée d'un budget de 500 millions par an à partir de 2022, selon une trajectoire ascendante, ce qui est le cas, et on espère que les 500 millions seront tenus. Et je voudrais dire aussi que nous avons deux attentes très fortes qui ne sont pas encore actées, avec notamment les coordinations d'ONG, puisque nous travaillons de cette façon, notamment avec la coordination humanitaire et développement, mais aussi avec Coordination Sud, qui regroupe plus de 170 ONG en France, de nature diverse, humanitaire, développement particulièrement. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, 10% de l'aide publique au développement soit dédiée à l'humanitaire. Dans le cadre des pays d'OCDE, c'est 12%. Et aujourd'hui, la France est à entre 1 et 2%. Donc en fait, la France a un instrument d'APD qui est affaibli par la faiblesse de cette part d'APD mobilisée pour l'humanitaire pour faire face aux crises et aux sorties de crise. Et ensuite, ce qu'on souhaite aussi, c'est que 1 milliard d'euros soit, dans le cadre de l'APD, mise en œuvre en partenariat entre les pouvoirs publics et les ONG. Donc mise en œuvre par les ONG. Voilà donc ce que nous attendons. Et je terminerai par un dernier point, c'est que en fait, face au Covid, et ça sera aussi abordé lors de la conférence ancienne de l'humanitaire, 9 ONG regroupées dans ce qu'on appelle le réseau logistique humanitaire ont décidé de mettre en place un pont aérien qui a été soutenu par le ministère des Affaires étrangères, puis par la Commission européenne, qui nous a permis, je parle de 9 ONG qui ont coordonné ça, et en particulier Solidarité internationale, qui nous a permis d'organiser en quelques mois 42 vols à destination de 12 pays en guerre, de transporter 1200 passagers et de transporter 785 tonnes d'aide en plus de ce que faisait le programme alimentaire mondial. C'est-à-dire qu'on peut prendre des initiatives novatrices dans l'action face aux difficultés pour les surmonter et que voilà.
Tout cela bien sûr dans un contexte bien compliqué avec la pandémie, arrêt du transport aérien, fermeture des frontières, désorganisation des circuits d'approvisionnement logistique et puis confinement plus ou moins généralisé. Pierre Brunet, pour replacer cette conférence nationale de l'humanitaire dans son contexte, peut-être, alors hier on a déjà parlé de beaucoup de choses et on va peut-être essayer de même certainement développer des thématiques un peu novatrices peut-être par rapport à ce qui s'est dit hier. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les évolutions de l'action humanitaire sont absolument gigantesques depuis le début de cette... On est loin aujourd'hui du bénévolat des origines, des caravanes de chevaux et des convois de camions. Comment décririez-vous l'action humanitaire aujourd'hui, Pierre Brunet ?
Alors, effectivement... Même si, je dis ça pour l'anecdote, il arrive encore qu'il y ait des convois de camions, hein, quand même. Mais effectivement, on a assisté à ce qu'on appelait la professionnalisation de l'aide humanitaire. Alors moi, je prends le terme professionnalisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus d'efficience, c'est-à-dire la meilleure efficacité dans l'économie de nos moyens. L'humanitaire, il y a toujours autant de gens engagés dans l'humanitaire qu'il y en avait au début, hein. Sauf que c'est devenu en même temps un métier, parfois une carrière, et c'est pas mal, avec des gens qui se projettent dans l'avenir, qui projettent leur vie active dans l'humanitaire sur le long terme, qui progressent, qui prennent de plus en plus de responsabilités, et tout ça, ça veut dire finalement de plus en plus d'expertise, c'est-à-dire une plus grande capacité à aider plus et mieux de plus en plus de personnes. De manière plus large, avec de plus en plus d'actions. Donc ça, c'est bien. Après, il y a un autre aspect sur lequel il faut faire plus attention, c'est-à-dire faut pas passer de cette professionnalisation qui est une plus grande rigueur, une plus grande efficience de l'aide humanitaire, à une menace d'industrialisation de l'aide humanitaire, où là, on passerait à une aide humanitaire massive, normée, où on fait exactement la même chose au Venezuela, au Sahel, en Afghanistan, etc., sans tenir vraiment compte des particularités, des besoins, des spécificités, de la culture, etc., locale, avec finalement un système qui pourrait à un moment donné tourner pour lui-même et par lui-même, sans que les personnes, les êtres humains que nous aidons, reste au centre de ce système. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle en philosophie, par exemple, du passage du sujet à l'objet. Et ce qui est essentiel pour l'humanitaire et pour le système humanitaire, c'est que le sujet, c'est-à-dire l'être humain, ou les milliers, ou les dizaines, ou les centaines de milliers d'êtres humains que nous aidons, que nous secourons, qui nous sont nos semblables, et c'est pourquoi nous les secourons, parce que ce sont nos frères humains, reste au cœur, reste le sujet de l'action humanitaire, et ne soit pas l'objet. L'objet de transactions entre telle ou telle organisation qui pourrait devenir à un moment donné non plus vraiment des organisations humanitaires mais des vendeurs d'aide. Je vous rassure, l'immense majorité des ONG restent des ONG humanitaires sincères. Mais il y a ce danger à l'horizon de passer à autre chose qui serait finalement des organisations qui vendraient de l'aide, qui vendraient d'aide à des bailleurs et finalement l'être humain que l'on aide à un moment donné ne serait plus le sujet de l'humanitaire mais l'objet d'une transaction. Donc ça, c'est le danger à l'horizon qu'il faut avoir. Il faut bien avoir que c'est un danger qui a des conséquences pour les êtres humains que nous secourons d'abord, parce que l'aide humanitaire sera standardisée, donc moins adaptée, et répondra moins à leurs besoins. Et à un moment donné, on fera moins d'efforts pour aller secourir les gens qui sont dans la détresse la plus aiguë. Et souvent, les gens qui sont dans la détresse la plus aiguë sont dans les endroits du monde les plus difficiles d'accès, les plus compliqués en termes de contexte, en termes de gestion de la sécurité à intervenir. Et il faut que les organisations humanitaires gardent cette capacité, cette envie, elles l'ont toujours, évidemment, aujourd'hui, à aller là où c'est le plus difficile, là où les gens ont le plus besoin, ont les besoins les plus aigus et les plus besoins d'aide humanitaire. Et ça aura aussi des conséquences si l'aide humanitaire devient trop industrielle, trop standard et finalement, à un moment donné, presque indifférente au sujet auquel elle répond, c'est que ça aura des conséquences, on en parlait hier, sur la sécurité des travailleurs humanitaires sur le terrain.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
On a évoqué avec l'assassinat des 9 membres d'ACTED. Anne Sénéki, un commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent. Pierre Brunet évoquait la professionnalisation de l'humanitaire, avec là aussi des menaces qui sont plus fortes qu'hier, et avec les conséquences que l'on connaît. Anne Sénéki.
C'est vrai qu'en fait, on peut analyser les grandes strates géologiques de l'humanitaire et y voir les traits de fracture et ce qui l'a poussé à évoluer. On évoquait la professionnalisation de l'humanitaire, l'institutionnalisation, la standardisation. Et c'est vrai que ces standards, que ce soit les standards FAIR, que ce soit People in Aid, finalement, on a eu des standards qui ont été présentés comme la chose à suivre, mais on a eu aussi beaucoup d'organismes qui ont développé leurs propres normes. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, ils peuvent amener aussi dans le risque de développer quelque chose d'identique dans tous les pays. On le retrouve aussi finalement avec cette multitude de normes différentes qui amènent sur un même terrain une sorte de cacophonie. Et c'est ce qu'on a vu par exemple à la réponse du tremblement de terre en Haïti en 2010. Donc suite finalement à ce constat-là, il y a eu un retour d'intérêt sur effectivement les populations à prendre en considération. Et c'est ce qui a amené finalement lors du sommet international humanitaire à Istanbul en 2016 de travailler sur cet agenda de la localisation, de la relocalisation finalement.
Relocalisation, de quoi est-il question très exactement, Anne-Sénéki?
Exactement, c'est travailler finalement main dans la main avec les institutions locales, la société civile également. Et du coup, c'est prendre en considération les ressources qui sont sur le terrain. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça prend du temps de développer une compétence humanitaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses dans l'humanitaire, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est cette dichotomie intrinsèque de l'humanitaire, où on a d'un côté les urgentistes, ceux qui préservent la vie, d'un côté ceux qui travaillent dans le développement, mais au final, sur le terrain, il n'y a pas d'un côté l'urgence et d'un côté le développement. Alors, on a cette nécessité à faire partir le développement dès le début de la réponse à l'urgence, pour qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas sur une finalité des programmes d'urgence, et c'est bien souvent le cas malheureusement, où il n'y a rien derrière. Alors que si on arrivait à prendre en considération ces deux choses, ces deux temporalités dès le début, on arriverait à tricoter un petit peu plus de coordination avec... avec l'environnement local. Et cette problématique-là est vraiment importante, et elle était d'ailleurs justement une des quatre thématiques lors de la dernière conférence nationale de l'humanitaire sur ce qu'ils appelaient une vision partagée. Alors, c'est vrai que on a aussi cette problématique de ce partenariat nord-sud qui est compliqué. Et le problème, c'est qu'on tombe assez facilement dans une sorte de sous-traitance dont on ne dit pas le nom. C'est vrai que ça rassure les bailleurs, qui est une ONG du Nord, pour la fameuse redevabilité financière. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'AFD travaille seulement avec les grands noms de l'humanitaire français. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on veut finalement développer, aller au-delà de l'humanitaire, parce qu'on évoquait tout à l'heure quel est le but de l'humanitaire, mais le but de l'humanitaire, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait plus besoin finalement d'humanitaire. Et dans ces cas-là, c'est effectivement à vous donner la capacité à pouvoir améliorer les capacités de résilience des États. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension politique, il y a une dimension sanitaire, on le voit bien cette année, il y a une dimension climatique, et tout finalement ce 2020 qui nous apporte le challenge et du changement climatique que l'on a déjà depuis quelques années, et le risque sanitaire que l'on voit est globalisé, où on n'est plus seulement dans la capacité de se dire il y a un là-bas et il y a un ici. Alors c'est vrai que les impacts sont très différents suivant les régions, et on ne va pas non plus généraliser, mais pour autant, et c'est là où c'est intéressant, et on peut le voir par exemple en rapport avec la crise du Covid-19, où on évoquait l'autre jour le fait que l'Afrique ait eu une meilleure résilience face à la pandémie. Finalement, on a utilisé des outils différents en Afrique, qu'on n'a pas utilisé dans d'autres continents. Et aujourd'hui, et demain surtout, ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir mettre en commun ces différents outils, ces différentes approches pour augmenter la résilience des uns et des autres. Et cette coordination, c'est vraiment ce qui manque le plus dans le monde humanitaire aujourd'hui.
Vous écoutez RFI, Marie-France Latin.
Alors, appel à plus de coordination, on l'a bien compris. Il est vrai qu'il y a, d'une certaine manière, ce que je pourrais appeler des crises à temps court et des crises à temps long. Je repense, puisque Anne Sénéquier l'évoquait à l'instant, le tremblement de terre de 2010 en Haïti. Alain Boinet ou Pierre Brunet, en réponse à cette question, ce à quoi on a assisté tout de même, c'est à une formidable compétition entre les pays, c'était à qui brandissait son drapeau le plus haut. On a atteint là quelque chose peut-être d'inégalé, Pierre Brunet.
Alors, je laisse Alain ensuite répondre et développer peut-être la question de la localisation de l'aide. Peut-être encore plus que le tremblement de terre d'Haïti en 2010, qui était déjà un sommet. Moi, je me souviens, parce que j'étais déjà dans l'humanitaire depuis longtemps d'ailleurs à cette époque, du tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est.
Oui, j'allais en parler aussi.
Des ONG qui ont débarqué à Banda Aceh, en Indonésie, à Sumatra, où on a véritablement assisté pendant quelques jours, quelques semaines, un véritable barnum, excusez-moi du terme, un barnum humanitaire, où tout le monde et n'importe qui a débarqué à faire le meilleur et le pire. Il y avait même la scientologie de mémoire qui a envoyé une équipe humanitaire, voilà, et qui faisait des manipulations scientologiques sur les rescapés. Bon, enfin bref. Donc, on a assisté parfois dans l'histoire à ces excès. Je pense que le sommet humanitaire d'Istanbul de mai 2016 a bien eu conscience de ça. Il y a eu cette volonté de rationaliser, de rendre l'humanitaire plus efficace.
On y reviendra, Pierre Brunet, dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec Anne Sénéquier et Alain Boinet après le journal. À tout de suite.
Priorité géopolitique. Marie-France Chatin.
regard sur les défis de l'action humanitaire à l'occasion de la conférence nationale de l'humanitaire qui se tient dans quelques jours à Paris. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS. Alain Boinet, fondateur de l'association humanitaire Solidarité Internationale et directeur du site défishumanitaire.com. Et Pierre Brunet, en studio avec moi, vice-président de Solidarité Internationale et écrivain co-auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'aider plus loin, 40 ans de crise, 40 ans d'action qui retrace les 4 décennies d'action humanitaire de Solidarité Internationale sortie récemment aux éditions Autrement. Pierre Brunet, on a terminé la première partie de l'émission sur la question des crises à temps long et des crises à temps court. En fait, c'est peut-être plus précisément des crises environnementales. On abordait le tremblement de terre de 2010 en Haïti et vous êtes revenu sur le tsunami de 2004 en Asie, ou pour ce qui concernait Haïti, parce que Anne Sénéquier avait souligné le fait qu'il était nécessaire qu'il y ait davantage de coordination. Là, en 2010, en Haïti, on a assisté à une sorte de combat de cocorico, qui hissait son drapeau le plus haut.
Absolument, absolument. Oui, oui. Donc ça fait partie des choses effectivement qui doivent appartenir au passé, hein, très très clairement. Il faut se coordonner. La compétition au drapeau, à mon sens, hein, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister sur le terrain. Il faut quand même reconnaître qu'il y a de plus en plus de coordination sur le terrain, même entre humanitaires urgentistes et développeurs. Les choses ont quand même tendance à s'améliorer. Il y a maintenant des structures, des organes de coordination qui fonctionnent. On essaie quand même de penser de plus en plus ensemble, et ces excès ont effectivement été l'une des raisons du sommet humanitaire mondial de 2016, qui a voulu aller au-delà de ça. D'ailleurs, c'est un sommet humanitaire où il y a eu ce qu'on appelait le Grand Bargain, les 51 décisions qui ont été prises pour rendre l'humanitaire plus efficace. Il y a eu l'histoire de la localisation de l'aide. Alain y reviendra, j'imagine, parce que c'est quelque chose qui a ses limites sur le terrain. Parfois, il y a aussi la volonté affichée de rendre plus simple, de fluidifier les procédures administratives d'engagement, de signature, de contrat d'opération, d'engagement, d'affectation, de réaffectation des fonds. Faut reconnaître que jusqu'à ce jour, ça n'a guère eu de traduction sur le terrain et qu'on assiste au contraire aujourd'hui à une multiplication des contraintes et des contrôles. Ceci dit, la crise liée aux mesures prises pour faire face au Covid-19, la crise humanitaire qu'on a connue et qui n'est pas terminée, a eu quand même un aspect positif à cet égard, c'est que les bailleurs de fonds, les bailleurs institutionnels, pendant la durée de cette crise et jusqu'à aujourd'hui, ont quand même fait un effort de simplification, de fluidification concernant les protocoles et les procédures d'affectation ou de réaffectation des fonds face à cette crise humanitaire du Covid. La question, c'est est-ce que ça durera au-delà de la pandémie ?
Alain Boinet.
Oui, alors concernant le premier sommet humanitaire mondial de mai 2016, c'est vrai que parmi les 10 priorités, il y en avait une qui était l'articulation entre l'humanitaire et le développement. Et alors, en fait, c'est apparu à l'époque comme quelque chose de nouveau, d'indispensable, et ça nous a, pour certains, beaucoup surpris, parce qu'en fait, cette question de l'articulation était posée sur le terrain depuis longtemps. Moi, j'ai le souvenir que dès 1992, après les accords de Dayton en Bosnie, la question de la reconstruction s'est posée, et en plus dans un pays, développé, avec des infrastructures lourdes qui avaient été pour beaucoup détruites. Et je peux vous dire que les humanitaires, à la fois en Bosnie, mais à chaque fois dans les processus de sortie de crise, ils ont été confrontés au fait qu'on passait de l'urgence à la sortie de crise avec des besoins plus structurels des populations auxquels il fallait répondre. Et je peux vous dire que historiquement, parce que j'en ai la mémoire, je l'ai vécu depuis 40 ans, on a été très seuls. Les humanitaires ont été seuls dans les sorties de crise parce que les acteurs de développement, ils n'étaient pas là, parce qu'ils ne voulaient pas venir. Moi, j'ai entendu à Bruxelles, dans des réunions de développement, des témoignages disant, venant de la part de responsables de la Commission européenne, que ce n'était pas stratégique. Parce qu'évidemment, on était dans la sortie de crise. La sortie de crise, elle est encore aléatoire. On n'est plus dans l'urgence, mais on n'est pas encore dans la paix. Et donc, nous, on s'est battu depuis très très longtemps pour qu'au-delà de l'urgence, il y ait un continuum, ou soit c'est régulier, soit au contraire, c'est avec des hauts et des bas, parce que autant dans les catastrophes naturelles, on peut progresser, je dirais, progressivement, autant dans les guerres, ben, ça dépend de la guerre. Hein, et donc, elle peut s'apaiser comme elle peut reprendre. Et on le voit dans certains pays depuis 40 ans, comme en Afghanistan, hein, et dans beaucoup d'autres. Donc en fait, notre première surprise, c'était de voir que des acteurs découvraient cette nécessité. Alors c'était tant mieux. Ce qu'on a découvert après d'ailleurs, c'est que cette priorité, c'est celle qui avait le moins progressé des 10 priorités dans les 2-3 ans qui ont suivi, elle avait disparu parce qu'en fait, quelqu'un a inventé le fait qu'il fallait qu'elle soit dans toutes les autres priorités. Elle était transversale. Nous, on s'est posé la question parce qu'on suit un peu cette affaire, bien sûr, du sommet humanitaire mondial, de la suite du Grand Bargain. Il y a eu des groupes de travail, c'est très lourd, très exigeant, très ambitieux, et c'était très bien qu'il y ait un sommet humanitaire mondial parce que ça inclut l'humanitaire dans l'agenda international.
Et tout de même, pardon, je vous interromps, Alain Bonnet, il n'y en a pas eu depuis 2016.
Oui, alors en fait, il était prévu de faire un bilan 5 ans après. 5 ans après, c'est l'année prochaine. On va voir ce qui va se passer. Mais dans une revue à mi-parcours qui a eu lieu, certains ont dit, en fait, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur le fait que le sommet humanitaire mondial et ses 10 priorités et le Grand Bargain, qui est un processus qui avait commencé avant, tout simplement disparaissent dans les sables mouvants des relations internationales. On verra l'année prochaine ce qu'il en sera. Et aujourd'hui, je dirais même que nous, on part du principe que maintenant, il faut avancer de toute façon avec ou sans le Grand Bargain. Alors, pour revenir sur la question humanitaire, développement et paix,
oui.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été mis en place depuis très longtemps, en termes de coordination opérationnelle, ce qu'on a appelé le système des clusters au niveau international. Donc vous avez une dizaine de clusters dans tous les domaines. Ça peut être la santé, l'aide alimentaire, l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Bref, tous les domaines sont couverts. Et pour prendre un exemple, puisqu'on parlait d'Haïti, après le tremblement de terre de janvier 2010, le jour même du tremblement de terre, nous on a pris contact avec ce qu'on appelle le Global Wash Cluster, donc c'est le cluster en charge de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement, qui réunit aujourd'hui 71 acteurs au niveau international. C'est d'ailleurs copiloté avec l'UNICEF qui est en charge de ce cluster. Et avant même, si vous voulez, d'arriver à Port-au-Prince, très très vite, dans les jours qui ont suivi, on était déjà en contact avec tous les acteurs de l'eau qui étaient sur place, avec la DINEPA, qui était l'organisme en charge de l'eau en Haïti. Et on était déjà dans la rationalisation de l'aide. Le problème, c'est qu'en Haïti, on est arrivé à un tremblement de terre, une grande partie des services publics, du pouvoir politique, des assemblées étaient bien sûr complètement paralysées, les bâtiments étaient souvent détruits, endommagés. Il faut voir le niveau de la catastrophe que ça représente, si vous voulez. Il faut voir les efforts absolument gigantesques qu'il faut déployer, non seulement pour sauver des vues, mais après pour réparer. On est toujours en Haïti depuis. Ça fait 10 ans qu'on est en Haïti. Oui. Parce qu'après, il a fallu qu'on se batte contre le choléra, les épidémies de choléra qui ont démarré à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je termine là-dessus, c'est que bien sûr que le lien entre il faut qu'on passe de l'urgence à la reconstruction dès que le contexte le permet, au développement, parfois ça peut se faire simultanément dans des régions différentes, mais une difficulté que nous avons aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'Agence française de développement, c'est que si on prend le cas du Mali, l'Agence française de développement, sur décision politique, elle est coordonnée avec la force Barkhane et avec la mission des Nations Unies au Mali. Et nous, qui sommes des acteurs indépendants sur la base de l'impartialité des secours, ça nous pose un problème. Parce que nous, on est dans des zones où opèrent des groupes armés, des groupes djihadistes. On opère pour les populations sans autre distinction que celle des besoins essentiels. Et évidemment, un partenariat avec une agence qui, elle, est sur une stratégie différente, pose problème. Et de surcroît, comme le disait Pierre Brunet plus tôt, aujourd'hui, l'Agence française de développement, dans les contrats qu'elle veut passer avec les ONG humanitaires, nous oblige à faire un criblage des bénéficiaires, un screening des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on rentre tous les bénéficiaires de nos programmes dans un logiciel, si vous voulez, qu'on serait supposé transmettre à qui, pour s'assurer que les gens que nous aidons ne sont pas de dangereux terroristes. Alors, il y a actuellement beaucoup de projets qui sont bloqués à l'AID parce que les ONG concernées disent « il n'est pas question que l'on recense et qu'on vous communique le nom des destinataires de l'aide ». Si vous voulez, sur un plan de l'éthique humanitaire et du droit international humanitaire, on ne peut pas faire ça. Donc il faut voir que on va poursuivre dans cette liaison entre l'humanitaire et le développement. D'ailleurs, on peut dire les humanitaires, ils utilisent des techniques de développement dans les situations de crise ou de sortie de crise. C'est clair. Mais le développement, on le fait aussi avec les acteurs locaux, et c'est eux les meilleurs vecteurs naturellement de l'avenir, de la réponse à leurs propres besoins. Et c'est surtout dans la phase de reconstruction et de développement qu'on arrive à vraiment construire des partenariats qui sont plus solides et plus durables, parce que dans l'urgence, je parle des situations de guerre et des risques que ça induit pour les acteurs de l'aide, évidemment, on doit être beaucoup plus distancié à l'égard d'acteurs locaux qui parfois sont engagés dans le conflit, tout simplement.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, pour en revenir à la question de Haïti et de la forte présence américaine et peut-être de la mainmise des États-Unis sur la gestion de l'après-tremblement de terre, on peut rappeler qu'effectivement, l'île est plus proche du continent nord-américain que de l'Europe. Alors, peut-être, Anne Sénéquier, vous souhaitez intervenir à ce stade de l'émission, oui, peut-être réagir à ce qui s'est dit. Après ça, j'aimerais qu'on revienne sur la question du nexus humanitaire-développement pour parler de la question de la paix, ce qui est demandé aujourd'hui aux humanitaires, ce qui me semble aussi, on en a déjà largement parlé hier, mais peut-être on pourra revenir dessus, peut-être pas le rôle des humanitaires. Anne Sénéquier.
Je voulais parler de l'approche par cluster qui permet effectivement en termes de couverture des thématiques d'être assez large. Mais le problème, et c'est la même chose pour les objectifs du développement durable au nombre de 17 qui vont partitionner finalement chaque thématique dans un silo. Et cette approche verticale aujourd'hui et sur le terrain, malheureusement, ça nous amène à des problématiques. Et j'ai moi évalué des centres de santé où il y avait un robinet d'eau qui coulait dans l'hôpital tout entier alors qu'il y avait une réanimation, qu'il y avait une maternité. Ce robinet d'eau, il était à 50 mètres du tas des déchets biomédicaux où les chèvres allaient manger les placentas et venaient boire ensuite au goulot du robinet d'eau. On m'a dit que la WASH était passée et qu'il y avait de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Mais tant qu'on ne discute pas avec le pôle santé pour dire qu'on a besoin d'une eau potable dans les services de réanimation, dans les services de maternité, et qu'ils soient protégés des animaux, à un moment donné, on arrive sur des problématiques de la même façon. Et de la même manière, cette coordination au sein des ONG même est compliquée, mais alors quand on va au-delà et qu'on essaye de se coordonner avec d'autres ONG, c'est bien plus compliqué. C'est vrai qu'il y a ces réunions de clusters, théoriquement. Dans la pratique, peu y vont parce que finalement, ils ont l'impression de donner plus d'informations aux autres que ce qu'ils en récupèrent. On peut dire aussi que OCHA, l'organisme humanitaire de l'ONU, a développé ce qu'on appelle les 3W et qui recense qui est où et qui fait quoi. Mais globalement, on va savoir, par exemple, que CARE est à tel endroit, mais on ne sait pas ce qu'ils font, on n'a pas leur contact. Et aujourd'hui, on a cette problématique, et je rejoins aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'agenda de relocalisation, de se coordonner. Finalement, c'est pas se coordonner aussi qu'entre humanitaires, mais c'est de voir aussi les initiatives locales. J'ai presque envie de dire que l'humanitaire de demain, ce sont les initiatives locales. On voit qu'il y a tout un nouveau niveau de structure de la société qui prend le relais, et on le voit par exemple dans les initiatives, l'initiative C40, par exemple, les grandes capitales du monde qui finalement sont un peu lasses d'attendre des solutions qui viennent d'en haut, qui viennent d'ailleurs et qui ne viennent pas, et qui vont prendre le lead, se coordonner et coopérer. Et aujourd'hui, des plateformes dédiées sur ces initiatives, il y en a une multitude. Mais on revient toujours sur ce problème de coordination, parce qu'au final, il n'y a personne qui va mettre en contact l'ONG avec la petite association locale qui, dans le bidonville, récupère les déchets pour aller en faire une recyclerie et qui derrière peut avoir des subventions. Et ça, aujourd'hui, on n'en a pas. Et j'ai envie de dire, je vois finalement les GAFAM se saisir de la santé, de faire prendre l'agriculture, le train de la révolution numérique. Et aujourd'hui, finalement, toutes les données que l'on a tous dans chaque organisation, dans chaque association, c'est une masse de données considérable, et il va falloir effectivement, comme disait M. Bonnet tout à l'heure, y mettre de l'éthique, parce que l'idée c'est pas juste de partager de l'information comme ça, et que ça puisse servir justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les problématiques de recherche terroriste et ce genre de choses, mais on a peut-être aussi une piste sur l'intelligence artificielle, et c'est vrai que l'outil numérique encore aujourd'hui, encore, alors je vais pas dire 2020 parce que cette année a été particulière, mais l'année dernière, je me suis retrouvée au Népal dans des situations très éloignées, où finalement on se demandait comment on pouvait communiquer aux populations locales quand le médecin ou l'infirmier était présent dans le centre pour éviter que les gens fassent 8 heures de marche et se retrouvent devant une porte fermée. Et finalement, il n'y a pas été trouvé de solution. Et quand on va sur le terrain, on se rend compte de quoi ? C'est que tout le monde a un smartphone avec Facebook. Et il serait tellement simple de faire une page Facebook du centre de santé. Et ça, à un moment donné, c'est compliqué. C'est là où c'est dommage, hein, tous les outils que l'on pourrait avoir maintenant, il faut arriver à inclure tous les acteurs et se servir aussi des nouvelles technologies d'aujourd'hui, puisque l'expérience du monde humanitaire, la connaissance du terrain, des associations locales, plus les outils qu'apportent en termes de coordination et d'éviter les doublons et de gaspillage, que ce soit de temps, d'énergie ou d'argent, de l'outil informatique et de coopération, est vraiment très important à ne pas laisser passer.
Deuxième volet de ce week-end consacré à l'humanitaire. Pierre Brunet, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Après ça, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur la question du nexus humanitaire, développement, paix. Et simplement pour dire aussi que les obstacles que rencontre aujourd'hui l'humanitaire sont évidemment particulièrement et de plus en plus importants. On l'a évoqué très rapidement et notamment hier, la question de la lutte contre le terrorisme, les menaces sur les humanitaires et puis aussi les menaces sur le droit international humanitaire. Pierre Brunet.
Ça, ce sont des enjeux fondamentaux parce qu'ils touchent aux fondamentaux, justement aux principes fondamentaux de l'action humanitaire qui relève, rappelons-le, du droit international humanitaire, lui-même dépendant des conventions de Genève, des protocoles additionnels des conventions de Genève. Rappelons tout simplement, pour terminer, les principes fondamentaux de l'action humanitaire. Humanité, bien sûr, neutralité politique, impartialité des secours, indépendance de l'action. Pour revenir rapidement sur le nexus qui nous amène jusqu'à demander aux ONG de participer aux solutions de sécurité et de paix, qui, rappelons-le, ne correspond absolument pas ni à leur rôle, ni à leur mandat, ni à leur mission, et on résiste et on refuse de participer à ça pour des raisons qu'on a déjà développé hier. Juste pour rappeler que Alain disait dans son intervention que les politiques et les militaires cherchent toutes les solutions pour résoudre un problème qui est un problème énorme, qui est le problème de la sécurité et du terrorisme. Il a raison. Et effectivement, ça remonte à loin, cette histoire. Ça remonte à ce qu'on appelle les actions civilo-militaires qui ne sont pas nées d'hier. Ça remonte à la guerre d'Algérie, à la guerre du Vietnam, où parallèlement aux actions militaires, les armées ont toujours voulu avoir un volet caritatif, humanitaire, etc. Rappelons-nous l'intervention humanitaire en Afghanistan après 2001, les attentats du 11 septembre 2001, les Américains puis leurs alliés. Il y a eu à cette époque la mise en place de ce qu'on appelait les PRT, Provincial Reconstruction Team, qui étaient des équipes humanitaires qui faisaient de la reconstruction dans les villages, mais c'était des militaires. Et ça a créé une grande confusion et un grand risque pour les équipes humanitaires sur le terrain, qui ont été parfois assimilées à finalement des auxiliaires des armées. Donc il y a un enjeu qui est extrêmement important, auquel il faut être vigilant. L'enjeu le plus essentiel, c'est le retour au respect du droit international humanitaire et aux principes fondamentaux de l'humanitaire. Si vous voulez, l'idée, c'est pas de protéger les humanitaires, de les mettre sous cloche ou de les protéger comme s'ils étaient une espèce en voie de disparition. La meilleure chose à faire pour améliorer la sécurité des humanitaires sur le terrain, c'est de respecter tout le monde, le droit humanitaire international, le statut des humanitaires et les principes fondamentaux de l'humanitaire.
Et on l'a évoqué hier, toutes ces difficultés rencontrées, particulièrement en Érythrée. Alain Boinet, très rapidement, guise de conclusion.
Oui, alors sur le processus humanitaire développement paix, évidemment, nous, on est totalement engagés dans le double nexus humanitaire développement pour répondre aux besoins des populations. En revanche, la paix, c'est de la responsabilité des États, c'est de la responsabilité des politiques. Il ne faut pas confondre les acteurs étatiques et les acteurs non gouvernementaux. Et je voudrais même dire que les militaires eux-mêmes disent « Nous n'avons pas la solution politique du problème. Nous sommes là uniquement pour gagner du temps et vous permettre de trouver la solution. » Donc, il faut distinguer la diversité des acteurs qui ne font pas tous la même chose. Et donc, nous sommes pour la paix. Mais ce n'est pas à nous de la faire, même si on peut y concourir à travers l'action que nous menons.
Merci Alain Boinet. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'association Solidarité Internationale et directeur du site défishumanitaires.com. Merci aussi Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l'Observatoire de la Santé à l'IRIS, et Pierre Brunet qui était avec moi en studio, vice-président de Solidarité Internationale, écrivain et co-auteur, pour ce qui nous intéressait ce week-end, d'aider plus loin 40 ans de crise, 40 ans d'action, qui retrace les 4 décennies d'action humanitaire de Solidarité Internationale aux éditions Autrement. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo, Nathalie Laporte et Guillaume Le Bouvier. À samedi prochain.